la singularité. Pour l'heure, seule une infime fraction de ces nouvelles occasions ont été saisies. Pourtant, le monde de 2014 est déjà un monde où la culture se libère des fers de la biologie. Notre capacité de manipuler le monde qui nous entoure, mais aussi l'intérieur de nos corps et de nos esprits, progresse à une vitesse époustouflante. De plus en plus de domaines d'activité sont arrachés à leur routine autosatisfaite. Les juristes doivent repenser les questions de la vie privée et de l'identité. Les pouvoirs publics vont devoir repenser les affaires de santé et d'égalité. Les associations sportives et les institutions éducatives doivent redéfinir le fair-play et les résultats. Les fonds de pension et les marchés du travail devraient se réajuster à un monde où on se porte aussi bien à 60 ans que naguère à 30. Tous doivent se frotter aux énigmes de la biogénie, des cyborgs et de la vie inorganique. Cartographier le premier génome humain a nécessité 15 ans et 3 milliards de dollars. De nos jours, il suffit de quelques semaines pour dresser la carte ADN de quelqu'un et de quelques centaines de dollars. L'ère de la médecine personnalisée, qui ajuste le traitement à l'ADN, a commencé. Le médecin de famille pourra bientôt vous dire avec plus de certitude que vous avez de gros risques de déclarer un cancer du foie, mais que vous n'avez pas vraiment à craindre de crise cardiaque. Il pourra constater qu'un médicament populaire qui aide 92% des patients ne vous servirait à rien et qu'il vaut mieux pour vous prendre un autre comprimé, fatal à quantité de gens, mais qui est exactement ce qu'il vous faut. La route de la médecine quasi parfaite est devant nous. Toutefois, les progrès des connaissances médicales s'accompagneront de nouveaux casse-têtes éthiques. Spécialistes d'éthique et juristes sont déjà aux prises avec l'épineuse question de la vie privée en rapport avec l'ADN. Les compagnies d'assurance auraient-elles le droit de nous demander nos scans d'ADN et d'augmenter les primes s'ils découvrent une tendance génétique à des comportements à risque? Serions-nous tenus de faxer notre ADN plutôt que notre CV aux employeurs potentiels? Un employeur pourrait-il privilégier un candidat dont l'ADN semble meilleur? En ce cas, pourrions-nous engager des poursuites pour discrimination génétique? Une compagnie qui met au point une nouvelle créature ou un nouvel organe pourrait-elle breveter ses séquences d'ADN? Il va de soi qu'on peut posséder un poulet, mais peut-on posséder une espèce entière? Tous ces dilemmes sont bien peu de choses au regard des implications éthiques, sociales et politiques du projet Gilgamesh et de nos nouvelles capacités potentielles de créer des surhommes. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les programmes médicaux officiels, les programmes nationaux d'assurance santé et les constitutions des divers pays à travers le monde reconnaissent qu'une société humaine, digne de ce nom, doit assurer à tous ses membres un traitement médical équitable et veiller à ce qu'il reste en relativement bonne santé. Tout cela était bel et bien tant que la médecine se souciait avant tout de prévenir la maladie et de guérir les malades. Que se passerait-il le jour où la médecine se soucierait d'accroître les facultés humaines? Tous les hommes y auraient-ils droit? Ou verrait-on se former une nouvelle élite de surhommes? Notre monde moderne se targue de reconnaître, pour la première fois de l'histoire, l'égalité foncière de tous les hommes. Il pourrait être sur le point de créer la plus inégale de toutes les sociétés. Tout au long de l'histoire, les classes supérieures ont toujours prétendu être plus intelligentes, plus fortes et, dans l'ensemble, meilleures que les classes inférieures. Généralement, elles s'illusionnaient. Le bébé d'une famille paysanne sans le sou avait toute chance d'être aussi intelligent que le prince héritier. Grâce aux nouvelles capacités médicales, les prétentions des classes supérieures pourraient bientôt devenir une réalité objective. Ce n'est pas de la science-fiction. La plupart des scénarios de science-fiction décrivent un monde dans lequel des sapiens, pareils à nous, jouissent d'une technologie supérieure. Des vaisseaux spatiaux qui se déplacent à la vitesse de la lumière, par exemple, ou des fusils laser. Les dilemmes éthiques et politiques qu'on trouve au cœur de ces intrigues sont empruntés à notre monde et ils ne font que recréer nos tensions émotionnelles et sociales sur une toile de fond futuriste. En revanche, les technologies futures sont à même de changer l'Homo sapiens lui-même, y compris nos émotions et nos désirs, pas simplement nos véhicules et nos armes. Qu'est-ce qu'un vaisseau spatial en comparaison d'un cyborg éternellement jeune qui ne se reproduit pas et n'a pas non plus de sexualité, qui peut partager directement ses pensées avec d'autres êtres dont les capacités de concentration et de remémoration sont mille fois supérieures aux nôtres et qui n'est jamais en colère ni triste, mais qui a des émotions et des désirs que nous ne saurions même commencer à imaginer. La science-fiction décrit rarement un avenir pareil, parce qu'une description exacte est par définition incompréhensible. Produire un film sur la vie d'un super cyborg, c'est un peu donner Hamlet devant un public de Néandertal. En fait, les futurs maîtres du monde seront probablement plus différents de nous que nous ne le sommes des Néandertal. Au moins, les Néandertal, tout comme nous, sont-ils humains? Nos héritiers seront pareils à des dieux. Les physiciens définissent le Big Bang comme une singularité, un point où toutes les lois de la nature connue n'existaient pas. Le temps non plus n'existait pas. Il n'y a donc aucun sens à dire que quelque chose existait avant le Big Bang. Peut-être approchons-nous à vue d'œil d'une nouvelle singularité où tous les concepts qui donnent du sens à notre monde, moi, vous, homme, femme, amour et haine, perdront toute pertinence. Tout ce qui se produit au-delà de ce point n'a aucun sens pour nous. La prophétie de Frankenstein. En 1818, Mary Shelley publia Frankenstein, l'histoire d'un savant qui essaie de créer un être supérieur et crée plutôt un monstre. Depuis deux siècles, on ne compte plus les variations de cette même histoire devenue un thème central de notre nouvelle mythologie scientifique. À première vue, l'histoire de Frankenstein semble nous mettre en garde. Si nous essayons de jouer à Dieu en manipulant la vie, nous en serons sévèrement châtiés. Mais l'histoire a un sens plus profond. Le mythe de Frankenstein rappelle à l'Homo sapiens que les derniers jours approchent à vue d'œil. Sauf catastrophe nucléaire ou écologique, poursuit l'histoire, le rythme du développement technique conduira sous peu au remplacement d'Homo sapiens par des êtres entièrement nouveaux, dont le physique sera différent, mais dont l'univers cognitif et émotionnel sera aussi très différent. La plupart des sapiens trouvent cette perspective pour le moins déconcertante. Nous aimons à croire qu'à l'avenir, des gens comme nous iront d'une planète à l'autre à bord de vaisseaux spatiaux. Nous n'aimons pas envisager la possibilité qu'il n'y ait plus d'êtres dont les émotions et les identités soient semblables aux nôtres, et que notre place soit prise par des formes de vie étrangères dont les capacités écraseront les nôtres. Nous nous consolons en imaginant que le docteur Frankenstein ne peut créer que d'horribles monstres qu'il nous faut détruire pour sauver le monde. Nous nous plaisons à raconter l'histoire ainsi parce qu'elle suppose qu'il n'y a pas meilleur que nous. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais rien de meilleur. Tout effort pour nous améliorer échouera immanquablement, parce que même si nous pouvions améliorer nos corps, on ne saurait toucher à l'esprit humain. Nous aurions du mal à admettre que les savants puissent manipuler les esprits aussi bien que les corps, et que les futurs docteurs Frankenstein pourraient donc créer quelque chose qui nous est réellement supérieur, un être qui nous regardera de haut, comme nous considérons les Néandertals. Nous ne saurions savoir avec certitude si les Frankenstein d'aujourd'hui vont accomplir cette prophétie. L'avenir est inconnu, et il serait surprenant que les prévisions des toutes dernières pages se réalisent pleinement. L'histoire nous apprend que ce qui nous semble à portée de main ne se matérialise jamais en raison de barrières imprévues, et que d'autres scénarios qu'on n'avait pas imaginés se réalisent. Quand l'âge du nucléaire est arrivé dans les années 1940, on a vu se multiplier les prévisions sur le futur monde nucléaire de l'an 2000. Quand le Spoutnik et Apollo 11 embrasèrent l'imagination du monde, on se mit à prédire que, d'ici la fin du siècle, on vivrait dans des colonies spatiales sur Mars et Pluton. Peu de ces prévisions ont été confirmées. Par ailleurs, nul n'avait prévu Internet. Donc, ne vous précipitez pas pour souscrire une police d'assurance qui vous indemnisera contre les poursuites engagées par des êtres numériques. Les fantaisies, ou cauchemars, évoquées plus haut ne sont que des stimulants de l'imagination. L'idée qui mérite d'être prise au sérieux, c'est que l'étape suivante de l'histoire comportera des transformations technologiques et organisationnelles, mais aussi des transformations essentielles de la conscience et de l'identité humaine. Et ces transformations pourraient être fondamentales au point de remettre en question le mot même d'humain. De combien de temps disposons-nous? Nul ne le sait vraiment. Certains disent qu'en 2050, quelques humains seront déjà amortels. Des prévisions moins radicales parlent du siècle prochain ou du prochain millénaire. Mais que valent quelques millénaires dans la perspective des 70 000 années d'histoire du Sapiens? Si le rideau est effectivement sur le point de tomber sur l'histoire du Sapiens, nous, qui sommes membres de ces dernières générations, nous devrions prendre le temps de répondre à une dernière question. Que voulons-nous devenir? Cette question, parfois connue en anglais sous le nom de « Human Enhancement Question », la question du corps augmenté ou du développement humain artificiel, écrase les débats qui préoccupent actuellement la classe politique, les philosophes, les savants et les gens ordinaires. Après tout, le débat présent entre religion, idéologie, nation et classe est très probablement appelé à disparaître avec l'Homo sapiens. Si nos successeurs fonctionnent bel et bien sur un niveau de conscience différent, ou peut-être possèdent quelque chose au-delà de la conscience que nous ne saurions même concevoir, il semble douteux que le christianisme ou l'islam les intéresse, que leur organisation sociale puisse être communiste ou capitaliste, ou que leur genre puisse être masculin ou féminin. Les grands débats de l'histoire n'en sont pas moins importants parce que la première génération de ces dieux, au moins, serait façonnée par les idées culturelles de leurs concepteurs humains. Seraient-ils créés à l'image du capitalisme, de l'islam ou du féminisme? La réponse à cette question pourrait leur faire donner de la bande dans de tout autre direction. La plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Même dans le domaine de la bioéthique, on préfère se poser une autre question. Qu'est-il interdit de faire? Est-il acceptable de faire des expériences génétiques sur des êtres humains vivants, sur des fœtus avortés, des cellules souches? Est-il éthique de cloner des moutons et des chimpanzés? Et qu'en est-il des humains? Ce sont toutes des questions importantes, mais il est naïf d'imaginer que nous pourrions simplement donner un coup de frein et arrêter les grands projets scientifiques qui promeuvent l'Homo sapiens au point d'en faire un être d'une espèce différente. Car ces projets sont inextricablement mêlés à la quête de l'immortalité. Le projet Gilgamesh. Demandez donc aux chercheurs pourquoi ils étudient le génome, essaient de relier un cerveau à un ordinateur ou de créer un esprit à l'intérieur d'un ordinateur. 9 fois sur 10, vous recevrez la même réponse standard. Nous le faisons pour guérir des maladies et sauver des vies humaines. Alors même que créer un esprit dans un ordinateur a des implications autrement plus spectaculaires que soigner des maladies psychiatriques, telle est la justification classique que l'on nous donne parce que personne ne peut y redire quoi que ce soit. De là vient que le projet Gilgamesh soit le vaisseau amiral de la science. Il sert à justifier tout ce que fait la science. Le docteur Frankenstein est juché sur les épaules de Gilgamesh. Puisqu'il est impossible d'arrêter Gilgamesh, il est aussi impossible d'arrêter le docteur Frankenstein. La seule chose que nous puissions faire, c'est influencer la direction que nous prenons. Mais, puisque nous pourrions bien être capables sous peu de manipuler nos désirs, la vraie question est non pas « que voulons-nous devenir ?» mais « que voulons-nous vouloir ?» Si cette question ne vous donne pas le frisson, c'est probablement que vous n'avez pas assez réfléchi.